De tous mes potes qui étaient stoners, aujourd'hui sont tous casés, sont tous nickel. Tous ceux qui picolaient sont cramés. Mais je trouve que c'est une débilité d'interdire absolument tout parce que tu crées du marché dans tous les cas. Tous les arguments qu'on nous sort pour justifier la prohibition, il n'y en a pas un qui tient la route. Le principe de « oui, mais de toute façon, vous détruirez jamais le marché noir ». Évidemment qu'on ne détruira jamais, il y a du marché noir sur tous les marchés légaux. Le CBD, en fait, marche beaucoup que dans les pays où c'est pas légalisé. Dès l'instant où tu légalises dans un pays, les ventes de CBD disparaissent. La dépénalisation, c'est une méthode terrible parce que s'ils dépénalisent, en fait, en essayant de voir si ça va marcher, le cannabis, ce qui va se passer, c'est que la consommation chez les jeunes va augmenter.
Parlons cana.
Cet épisode est sponsorisé par CBD Info, le blog d'informations incontournable sur le CBD. On y retrouve des informations sur l'actualité du CBD en France et en Europe, des informations sur la législation et le lifestyle, mais aussi la rubrique interview qui est innovante et qui permet aux acteurs du CBD de s'exprimer avec authenticité, sans oublier les nombreuses études et analyses. Et pour avoir de super promos, visitez CBD Info.
Hey, bonjour, c'est Damien et bienvenue sur Parlons Cana. Parlons Cana, c'est le podcast qui traite des actualités les plus chaudes du cannabis légal. Je suis vraiment ravi de t'accueillir sur Parlons Cana saison 3. Après deux saisons historiques, on continue de démystifier la plante et d'explorer sa place au sein de notre société. Alors partons ensemble à la rencontre de personnes passionnantes, des scientifiques, des médecins, des politiques et des économistes, mais aussi des cannabiculteurs et des militants de très longue date. Avec eux, avec ces spécialistes, nous allons aborder les sujets les plus complexes, comme la légalisation, l'addiction, les expérimentations médicales, mais aussi le lobbying et les enjeux géopolitiques. Pour comprendre ce qu'il se passe ici en Europe, il faut bien observer ce qu'il se passe aussi ailleurs dans le monde. Nous aurons donc la chance de discuter avec des invités exceptionnels, basés en Thaïlande, au Maroc, en Colombie ou encore en Afghanistan. Mathias m'a confié le micro avec une seule mission. Interroger sans préjugés ni parti pris. Interroger pour chercher la vérité et te donner accès aux informations les plus récentes et les plus authentiques. Tu pourras enfin te forger ton propre avis sur le cannabis légal. Parlons Cana saison 3, c'est parti! Bonjour, bienvenue sur Parlons Cana. Cet épisode, je vous préviens, il est assez dingue. Donc cet épisode, vous allez écouter Julien de Botafarm qui est basé en Californie depuis plus de 10 ans. Il a déjà une très très grande expérience dans le monde du cannabis, pour le cultiver comme pour le vendre. C'est dingue, on va beaucoup s'intéresser à ce qui se passe aux États-Unis en comparant avec ce qu'on fait en France. Alors évidemment qu'on est sur Parlons Cana, donc on va beaucoup parler de cannabis, mais même sur d'autres sujets. On va même parler un petit peu d'entrepreneuriat. Je vous laisse avec un super épisode. Peut-être un peu long, mais je veux aller jusqu'au bout. Vous allez adorer. Allez, bonne écoute.
Donc, c'est Julien. J'ai commencé à cultiver il y a très longtemps. Je m'y suis mis vraiment correctement il y a à peu près 20 ans, un peu plus de 20 ans, en Île-de-Nord. Et avant de me lancer, j'ai étudié pendant un an. Donc pendant un an, j'ai cherché des informations sur Internet. À l'époque, Internet, il fallait payer à l'heure. Et il y avait quelques forums de pirates qui cultivaient. Et à l'époque, les informations qu'on avait, c'était des vrais pirates. Ils savaient vraiment de quoi ils parlaient, en tout cas avec les connaissances de l'époque. Aujourd'hui, les forums, c'est un peu plus compliqué. Tout le monde y met un petit peu sa sauce. C'est difficile de... Il y a un peu à boire et à manger dedans. Donc c'est un peu plus compliqué. Mais à l'époque, moi, je trouvais pas mal d'informations. J'ai acheté des bouquins... Les bouquins qui arrivaient à passer la loi française parce qu'on voyait pas de feuilles de cannabis et, mais bon, ça expliquait clairement comment cultiver du cannabis. Donc, pendant un an, en fait, j'ai fait des recherches comme ça, je me suis éduqué. Mais quand t'es passionné, en fait, tu avales les bouquins, tu avales la connaissance et ça rentre tout seul, quoi. Même si, à la base, j'étais un peu un cancre, en plus, j'étais pas si bon que ça à l'école, mais ça, tu vois, ça rentrait très, très bien.
Parce que là, t'as quel âge? T'as 15, 16 ans à ce moment-là?
Là, j'avais 18.
Ok.
19, 20, moins de 20 ans, je
crois. Ok, d'accord.
Non, j'avais 20 ans, j'ai 40. Ouais, genre 19, quelque chose comme ça. Et donc, je bossais à l'usine, j'ai fait des études en tant que préparateur en pharmacie, mais j'ai eu que la moitié des diplômes, ça m'a vite gavé. vendre des boîtes de Doliprane. À la base, j'avais fait ça pour fabriquer des pommades et des poudres et des trucs, mais maintenant, en préparateur, tu vends juste des boîtes de Doliprane.
Ouais, mais tu étais déjà quand même dans le côté de manipuler un peu les molécules, les substances, les effets que ça avait sur les autres, ouais. Sur toi. Enfin, tu étais quand même un peu dans ce délire, plus que dans le délire cultiver des tomates au fin fond du Vercors.
Ah bien, ouais, non, c'est sûr. Ça m'a toujours fasciné, la psyché, tout ce qui était psychotrope et tout, okay. Ça m'a toujours fasciné, les psychédéliques essentiellement. Et donc, voilà, donc je me suis mis à faire des recherches comme ça pendant un an et j'ai investi, je crois, 500 balles et j'ai acheté un mètre carré. J'avais mis une 600 watts, j'avais acheté des paquets de graines à l'époque. Il y avait un site sur Internet. Ce serait pas mal de refaire un site comme ça qui te permettait de poser des questions. Quel genre pour choisir ta variété? C'était connecté avec tous les breeders. Et tu mettais une variété qui produit beaucoup, une variété qui sent tel parfum. Enfin, tu mettais tous les plantes hautes pour l'indoor, pour l'outdoor, tout ça. Et tu mettais tous les paramètres et ça t'avait un algorithme qui te donnait la variété. Et à la base, moi, j'étais tombé sur de la B52, okay. Chez Nirvana. Donc, c'est un mélange de Big Bud et Super Skunk. Donc, truc très, 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 une belle structure et tout. Donc, j'ai acheté ça et j'ai eu 10 graines. Sur les 10 graines, c'était des régulières. Sur les 10 graines, je crois que j'ai eu, pas dire bêtises, je crois que j'ai eu 9 mâles. Et sur les 3 qui restaient, il n'y en a qu'une qui a survécu, et par contre, bah, elle a pris tout le jardin, quoi. Donc ça m'a fait des grosses buds. Je me rappelle, la bud centrale, c'était genre mes deux avant-bras comme ça, avec des gros satellites. Et je me suis dit, putain, peut-être que j'ai fait quelque chose de bien. Et donc j'ai continué, c'est devenu ma passion. Et en 2006, je me suis pété le pied. Alors, en fait, quand je cultivais, en fait, ça a fait, si tu veux, quand t'as de la bonne weed, ça prend comme une traînée de poudre, en fait. Tout le monde commence à parler de toi. Et donc, je me rappelle arriver dans les festivals et je me rappelle le festival Garo Rock à Marmande. Il y a un mec qui me connaissait, quoi. Pourtant, enfin, j'avais un mètre carré, tu vois, il avait entendu parler de ma weed parce que c'est vrai que ce que je portais, c'était bien mieux que ce que j'avais trouvé en Hollande à l'époque. Et même moi, j'étais le premier assourdi, hein. J'avais jamais fumé un produit pareil.
Du coup, après coup, en fait, est-ce que c'était la chance du débutant ou est-ce que c'était cette année à passer à lire et à te cultiver et qui a porté ses fruits?
C'est ce que j'ai cru et c'est ce que mes potes ont cru quand ils ont vu les plantes, parce que tout le monde a halluciné, quoi, d'avoir une plante comme ça. Et donc, à chaque fois que je recultivais, non, j'appliquais le même procédé et le résultat était toujours bon. Mais parce que si tu veux, quand tu apprends des choses, en fait, tu te rends pas compte que tu apprends. En fait, je sais pas si ça te fait, mais
si tu fais bien tout de suite, tu te rends pas compte que tu t'améliores parce que dès le début, c'est bon.
Ouais, je me rappelle, moi, les notes, j'étais un mauvais élève, mais j'étais aussi un bon élève. Ça dépendait vraiment du professeur. Et je me rends compte, en fait, enfin, je me suis rendu compte que toutes les bonnes notes que j'avais en cours, c'est jamais j'ai étudié à la maison. C'est parce que j'écoutais en classe, parce que le professeur était facile. Et donc, ça rentrait tout seul. Et je retenais juste comme ça. Donc, je pense que c'est ce que ça a fait. Et donc, j'ai cultivé comme ça pendant quelques années. Et 2006, je me suis cassé le pied. En faisant con. Et du coup, je galérais pour aller chercher tout mon matos jusqu'à Bordeaux. Parce que moi, j'étais du côté de Libourne. Alors, Libourne, c'est un petit patelin qui est à 30 bornes de Bordeaux. Et donc, je galérais pour aller chercher mon matos et j'allais en centre-ville. J'avais des béquilles. Tu m'imagines avec les béquilles, les sacs de terre. Mmh. C'était une galère. Et je crois qu'un soir, tu vois, je venais de fumer ou quoi. Et puis, je me suis dit, putain, si seulement il y avait un gros shop à côté de chez moi, ça serait tellement. Et puis, je me suis dit, mais attends, il y a des pirates un peu partout. Si ça se trouve, ça marcherait, quoi, d'ouvrir un gros shop dans les alentours, là, dans ces petits patelins. Puis, en fait, de fil en aiguille, j'ai ouvert un gros shop. Et qui a marché, qui a cartonné le premier mois, quoi. J'avais peur, hein, je me suis dit, putain, s'il n'y a pas. Puis, tout le monde en France, dès l'instant où tu fais quelque chose, on te dit, ouais, mais ça ne marchera pas.
Ouais, un peu dommage.
Et t'auras ci, et t'auras ça. Et puis, donc, du coup, ça me faisait un peu flipper, mais je me suis quand même fait confiance.
Et en effet, les gens ne venaient pas pour les tomates. C'était vraiment un gros shop, c'était ouvertement. D'accord.
Alors, on va dire, c'était pas important, mais j'ai eu peut-être 2-3 clients qui venaient. Il y en a qui se perdent, tu vois, genre des personnes âgées qui viennent. Oh, il est mignon, votre magasin. C'est pour les Anglais? Oui, c'est pour les orchidées, c'est pour les tomates. Alors, tu te tapes la discute pendant une demi-heure pour des tomates, quoi. Alors que, honnêtement, tu verrais la gueule de mes tomates. Effectivement, faire de la houle autant les tomates, c'est pas bon. Ni rien d'autre derrière. Et donc, voilà. Donc, ça a marché. Et puis, de fil en aiguille, en fait, je me suis intéressé un petit peu à la Californie. En fait, ça a commencé. Bon, de toute façon, enfin, j'ai toujours été fasciné par les States. Okay. Ça a toujours été un rêve d'y aller. Ça m'a toujours fait peur parce que tu sais ce qu'on te montre à la télé, c'est les guns, les machins. Donc ça te fait toujours. Et puis un soir avec des potes, on était. Je te fais la version longue. Hein.
Ah mais j'écoute attentivement et c'est très intéressant.
Donc à l'époque, si tu veux, on prenait pas mal de psychédéliques avec mes potes. Et en fait, on était à fond dans toute la génération Woodstock et tout le live de Woodstock. Donc, on était tous sans arrêt en train d'écouter Richie Evans et Hendrix et tous ces trucs-là. Et un soir, on avait fait une soirée un petit peu où on était un peu bourrés. Et dans ma tête, et je me dis, putain, mais l'année prochaine, en 2009, c'est les 50 ans de Woodstock. J'étais bourré, hein, parce que c'était en fait les 40 ans de Woodstock. Mais
je me rappelle, ça marche quand même.
Et donc, j'avais dit, vas-y, on tape le trip, quoi. C'est un trip, on économise. Tu vois, je crois qu'on était à 6 ou 7 mois avant le festival, et même plus que ça. J'ai dit, je sais même plus combien de temps on était. Enfin, bref, j'ai dit, on économise, et voilà, on se fait un trip, on va à New York, et puis on fait les 50 ans de Woodstock. Et donc, évidemment, tout le monde était partant. Ouais, on était une vingtaine de personnes. Ouais, c'est sûr, on fait ça, tu sais comment c'est dans les soirées, tout le monde est chaud. Puis le lendemain, en fait, bon, je me lève avec la gueule de bois, et j'appelle mon pote, je lui dis, mais c'était quand même une bonne idée, on le fait, quoi. Et j'ai dit, moi, je m'en fous, si tu le fais pas, j'y vais, quoi. J'y vais tout seul, je me tape. Je veux trop avoir cette expérience. Donc, finalement, on est parti avec mon frère, un pote à lui, et puis mes deux meilleurs potes. Et
quand même, sur 20, vous étiez pas mal encore. T'es pas parti tout seul, finalement.
Et donc, on est parti à New York. Donc, je parlais pas anglais. J'avais réussi à nous réserver une limousine. On est arrivé à New York,
le rêve américain dès le début. Limousine, paf.
C'est, tu sais, quand tu prépares tes vacances, c'est souvent, des fois, t'es un peu déçu, tu t'es fait un film et tout. Mais là, c'était l'inverse, quoi. C'est déjà, je savais que ça allait être grandiose, mais je me rappelle quitter l'hôtel qu'on avait, là, la YMCA, là, une auberge de jeunesse, pour aller à l'aéroport, j'avais les larmes aux yeux, quoi. Tellement c'était, et donc voilà, on a fait un trip, on est parti à New York et on a fait les 40 ans du festival de Woodstock. Donc, il y avait encore certains artistes, hein, qui tiennent debout. Parce que la plupart, ils avaient 60, 70 ans. Mais c'était magique. Et à partir de là, je suis rentré en France, j'ai fait une dépression. Parce que, je voulais y retourner, quoi. Donc, ce que j'ai fait, tout mon argent est passé là-dedans. Tout mon argent est passé dans les trips aux US. Et à un moment donné, j'ai rencontré des gens, j'ai rencontré mon ex-femme, Marley. J'ai rencontré un mec que j'avais rencontré sur un réseau qui était sur Cannaweed. Donc, et lui, en fait, il m'a dit, t'as un gros shop, moi j'ai un spot sur Venice, j'ai besoin de matos, envoie-moi du matos et en cultive. Et donc, c'est là que
Venice,
c'est comme ça.
Venice, c'est en Californie, c'est Los Angeles, ok.
Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais parti à la Cannabis Cup en Espagne, à la Spanabis, je crois que c'était la première Spanabis. J'avais mis un mot sur la porte de mon shop et en fait, j'avais dit, je suis pas là, je pars pour le week-end. Il y a un client qui me dit, tu pars où? J'ai dit, je pars à la Cup. Et il me dit, mais tu pars à Denver? Je dis, Denver, non, je pars que pour le week-end, je vais pas aller à Denver. Il y a une Cup à Denver. Il me dit, ouais, ils sont huge dans le cannabis et tout à Denver. Il me dit, il y a un mec sur Cannaweed, il cherche des Français pour l'accompagner de LA à Denver pour aller à la Cup. Il me dit, vas-y, contacte-le. Moi, j'avais contacté ce mec. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. J'ai rencontré mon ex-femme à travers lui aussi. Et donc, on a sympathisé. Je faisais des allers-retours. Bordeaux, LA, constamment. Et jusqu'à ce qu'ils me disent, là, on a un garage à Venice Beach. Et le proprio, il est d'accord pour nous laisser cultiver parce qu'il a un dispensaire. Et Earl, il s'appelait un petit vieux, quoi, mais il est trop sympa. Et donc, il me dit, tu nous envoies du matos et on cultive. Et puis voilà, et puis quand tu viens, voilà, on fait moitié-moitié. Moi, j'ai pas de souci. Donc, j'ai envoyé des milliers de dollars de matos à LA. Il a tout reçu et il a cultivé comme ça. On avait mis des tentes de culture dans le garage. Tu vois, on avait mis 3 tentes et on avait.
Et donc, c'est en quelle année?
2011.
Ok, et en 2011, c'était quoi un peu l'état du cannabis en Californie?
En 2011, ils étaient sur la proposition 215. Donc, c'était du cannabis médical. Tu pouvais cultiver si tu avais des patients. Et donc, pour trouver des patients, c'est simple. Il suffisait mon avocate m'avait dit, tu vas dans une cannabis cup, tu set up une table et tu donnes de la weed. Pour qu'ils aient la weed gratuite, il faut qu'ils signent pour montrer que tu les sers, que c'est tes patients.
D'accord, ok. Ouais.
Et avec ça, après, tu avais un stock de papier, tu vois, de papier signé. Et avec ça, si tu avais le moins de soucis, tu pouvais montrer ça au juge et tu passais à l'as, quoi. On faisait comme ça. À savoir que moi, techniquement, j'avais même pas le droit de faire ça parce que tu n'as pas le droit d'être dans le cannabis si t'es pas américain. Et même si toi, par exemple, tu viens aux States, dans un état légal, tu n'as même pas le droit de consommer le cannabis.
Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui?
Encore aujourd'hui parce que le cannabis est illégal fédéralement et tous les visas, y compris le ESTA, c'est-à-dire le visa touristique et la green card, qui est un visa fédéral aussi, tous les visas sont fédéraux. Ce qui fait que tu n'es pas régi par la loi de l'État, tu es régi par la loi fédérale, donc tu n'as pas le droit. Donc quand tu viens aux States et que tu remplis ton ESTA, tu sais, là où ils te demandent si tu es un communiste, si tu es un terroriste et si tu as consommé de la drogue, bah, le mieux c'est quand même de dire non, sinon tu passeras pas. Mais il faut savoir que tu mens sur un document fédéral. Et donc si tu te fais attraper, tu es banni de visa touristique. Après, tu peux toujours demander un visa professionnel et des trucs comme ça. C'est peut être accepté, mais en tout cas, t'es banni s'ils se rendent compte que t'as menti. J'ai une copine, moi, qui venait, et en fait, elle a dit qu'elle fumait pas, évidemment. En fait, ils ont vu qu'elle avait fait plein d'allers-retours, ils ont commencé à gratter un petit peu, ils ont pris son téléphone, et sur son Instagram, elle avait un joint à la bouche, et ils lui ont dit, vous avez menti. Donc, vous êtes banni. Voilà. Elle aurait pu discuter tout ça, mais honnêtement, quand t'es français, que tu débarques, c'est hyper impressionnant la douane. Donc, tu fais pas trop le mariole. Tu sais qu'il t'ira vu. Donc, non, je déconne. Mais c'est pas vrai. Enfin, c'est ce qu'on vous dit à la télé. Mais, non, mais ça reste quand même impressionnant. Mais, ouais. Donc, techniquement, j'avais pas le droit de faire ça. Voilà. Et donc, voilà. Et puis, je suis resté. Et je suis devenu américain. Et,
oh, you're American now.
Yeah.
Ok, parle pas plus en anglais parce que je vais être perdu. Continue pas la blague parce que... Ok, ouais, donc... maintenant tu as vraiment la nationalité américaine et donc tu as pu t'installer, rentrer vraiment dans le business 100%.
Voilà. De ces cultures-là, dans le garage à Venise, en fait, ce qu'on a fait, c'est que donc ça marchait bien, on démarchait les dispensaires. À l'époque, le marché était pleinement ouvert, on vendait les plantes pour des prix exorbitants. On faisait venir des clones du nord de la Californie, on a été un des premiers à LA à avoir la Girl Scout Cookie, qui est devenue après mondialement reconnue. Mais sur LA, elle n'était pas arrivée dans le sud encore. Ou alors dans très très peu de dispensaires, mais on était un des premiers à avoir la Girl Scout dans notre garage. Et après, c'est parti comme une traînée de poudre. Hein. Après, ça a explosé partout. Donc après, à partir de là, moi, j'ai trouvé un boulot dans un dispensaire à Venise, petit dispensaire qui s'appelait Medical Venice Beach Care Center. Et le patron du Big Boss, en fait, super sympa, c'était le fils de Alan Thicke. Je sais pas si ça te dit quelque chose, c'est un acteur, si tu vois qui c'est, le nom te dit peut-être rien, mais l'acteur, tu verrais le visage.
Oui.
Et donc lui, donc fils de cet acteur et frère de Robin Thicke. C'est le Justin Timberlake du Canada, un peu Robin Thicke. Et qui est très connu aux States aussi. Pas trop connu en France. Et lui, donc Brennan, c'était la voix du cartoon Denis Lamalisse aux États-Unis aussi. Il était un petit peu dans cette... Ça dit rien, Denis Lamalisse ?
Non, Denis Lamalisse, malheureusement...
Ouais, je vais prendre une plaque dans la gueule. Ok. Moi,
attends, je suis pas très jeune, mais...
C'est un vieux cartoon. Mais, okay. Moi, il faisait la voix de Denis Lamalisse. Et donc, moi, j'ai baragouiné en anglais. J'ai dit, voilà, je voudrais un pied dans l'industrie vraiment avec des professionnels. J'ai besoin d'un job, donc... J'étais là, mais jamais il va m'embaucher, quoi. Je baragouine à peine l'anglais. Et puis, il m'a dit, si, vas-y, t'as le job et tout. Donc, ce que je faisais, c'est que je trimais de la weed. Et puis, je la mettais dans des, à l'époque, c'était des petits conteneurs de médicaments que ça se vendait, certaines boîtes en plastique. Et donc, je faisais des 8, des 3,5 grammes, des 28 grammes, des 11 et tout ça. Et puis, j'ai fait ça pendant un moment. Mais sinon, si tu veux, ça m'a vite gavé, en fait. Parce que quand t'es un chef, j'ai eu rien contre faire la vaisselle, mais faire la vaisselle constamment, plutôt. Au lieu d'être dans la cuisine, tu vois, c'est un peu déroutant. Donc,
oui, parce que toi, à la base, t'es plus quand même dans la culture, dans le fait de... Donc, on mettra aussi le lien vers un live que t'as fait récemment qui est très, très riche. Donc, le but, c'est pas de forcément de reprendre trop d'infos parce que l'idée, c'est que ce soit complémentaire. Oui. Mais toi, vraiment, c'est la créativité qu'il y a dans le fait de cultiver cette plante qui te plaît. Comment est-ce qu'aujourd'hui... Tu observes le marché évoluer, en tout cas en Californie. Typiquement, est-ce qu'il y a des analyses terpéniques sur les produits? Est-ce que ça intéresse les clients? Est-ce qu'il y a des tendances sur les effets recherchés? Est-ce que je te dis tout maintenant comme ça, tu vas là où tu te sens à l'aise et là où il y a des trucs intéressants selon toi. Est-ce qu'il y a aussi un type de produit? On entend parler beaucoup de dab, de wax. Et je terminerai par les molécules de synthèse. En France, on dit de plus en plus que quand il y aura un encadrement par la loi, quand il y aura une légalisation, en fait, le molécule de synthèse, fin du débat, parce que si les gens ont accès à du cannabis de qualité avec du THC, les molécules de synthèse, ça n'intéressera personne. Sauf qu'aux États-Unis, il y a quand même des molécules de synthèse qui se vendent. Donc voilà, qu'est-ce que tu observes en Californie sur ce genre de sujet?
Je vais revenir sur, enfin, je vais faire les molécules de synthèse de suite et après, il faudra que tu me rappelles ce que tu
veux. Ou bien sûr, okay, je dirais.
Les molécules de synthèse, elles existent uniquement, c'est l'effet pervers de la prohibition. Il faut sortir une phrase toute faite. Les molécules de synthèse, elles existent aux États-Unis uniquement pour être produites. Par exemple, en Californie, le marché est légal, complètement légal. Les molécules de synthèse qui sont produites ici, elles sont produites pour le marché des smoke shops, donc pas les dispensaires.
C'est quoi la différence, si tu peux nous expliquer?
Les smoke shops, on va acheter des pipes, du papier, des clopes, des bongs.
C'est des accessoires, d'accord.
Voilà, smoke shop, ça va être tout ce qui a l'attirail du fumeur. Et donc, ils se mettent à vendre. Les smoke shops, ils vendent de tout. Ils vendent même des champignons Lego, ils vendent de l'amanite muscaria, ils vont vendre tout.
Ok.
Ils peuvent. Et donc, ils vont vendre aussi du Delta 8 et d'autres molécules de synthèse, genre le HHC ou des conneries comme ça, parce qu'ils n'ont pas besoin de licence. Donc, ils le vendent. Après, je ne sais pas vraiment la clientèle qu'il y a. Je pense que la clientèle est vraiment minime parce que les gens ont accès à du THC. Donc, tu ne vas pas acheter un sous-produit qui est pas réputé, en plus, qui a une mauvaise réputation, quand c'est aussi simple d'aller au dispensaire, quoi. Donc, je dirais maintenant, ils le fabriquent en Californie. Enfin, ils le fabriquent en Californie pour vendre au marché où le THC n'est pas légal. Donc, dans les États où ce n'est pas légal et en Europe, essentiellement. Donc, tous ces produits-là, en fait, ça va s'éteindre dès l'instant où on légalise. Encore une fois, la prohibition, ça ne devrait pas exister. De l'instant, surtout dans un pays comme la France, enfin dans d'autres pays, mais de l'instant où tu légalises l'alcool, tu peux tout légaliser. Tu peux légaliser. Ils vont en vendre du fentanyl. Et en pharmacie, on vendait du néocodion, on vendait de la codéine sans ordonnance à détox. On le savait très bien que c'était détox. On le vendait. Tu vois, c'est sans vergogne. Donc, de l'instant où tu légalises l'alcool, c'est un truc qui fait énormément de morts, qui détruit des vies, qui détruit des familles, des gens. Enfin, moi, je vais dire, mes potes, c'est des amis de toujours. Hein. C'est des gens, j'ai 40 ans, on se connaît. Pote Kevin, on se connaît depuis, ça fait 38 ans qu'on se connaît. On était à la crèche ensemble. Quoi. Donc, mais c'est des mecs, on était tous des stoners. On tapait des douilles dès le matin, on s'en fumait, on avait que ça à foutre, de toute façon, dans notre patelin. De tous mes potes qui étaient stoners, aujourd'hui, ils sont tous casés, ils sont tous nickel. Tous ceux qui picolaient, ils sont cramés. J'oppose pas l'alcool au cannabis, par contre, hein, parce que je dis pas qu'il faut interdire l'alcool. Je trouve que c'est une débilité d'interdire l'alcool. Mais je trouve que c'est une débilité d'interdire absolument tout parce que tu crées du marché dans tous les cas. Donc, il vaut mieux. On va faire un parallèle qui est assez violent, ok? Je dis pas que je suis pro cocaïne, loin de là. J'en prends pas, j'en ai pris, mais j'en prends pas, c'est pas mon délire, c'est. Bref. Si tu as le choix entre de la cocaïne qui est faite avec du gasoil dans la jungle, et de la cocaïne qui est faite chez Pfizer, laquelle tu voudrais acheter si tu étais consommateur? Tu vois ce que je veux dire? C'est, il vaut mieux que le produit soit fait et qu'il y ait un contrôle sanitaire et être honnête et savoir que de toute façon, les gens consomment, parce que les gens consomment des produits. Quand ils ont prohibé l'alcool, c'est ce qui a créé la guerre des gangs. Ça a créé des tueries de masse. Le massacre de la Saint-Valentin, c'était à propos de l'alcool. Je sais pas si tu as regardé une série qui s'appelait Boardwalk Empire. Les mecs pop le champagne le jour de la prohibition parce qu'ils savent qu'ils vont s'en foutre plein les fouilles parce que maintenant c'est pareil sauf que c'est pas contrôlé, donc c'est tout bénef. Donc c'est pour ça que la prohibition c'est et tous les arguments qu'on nous sort pour justifier la prohibition, il y en a pas un qui tient la route. La drogue passerelle, moi, enfin, la première substance que j'ai mis dans mon sang, c'était de l'alcool. Ça n'a pas été du cannabis, c'était des cigarettes, même, j'ai envie de te dire. Parce qu'avec la fumée de mes parents qui fumaient dans la voiture, tu vois ce que je veux dire? Enfin, l'alcool, parce que, bon, je suis petit fils de sommelier, mais je pense qu'il n'y a pas besoin de ça pour finir dans un mariage à 12 ans et puis faire le fond des verres. Enfin, je pense que je suis pas le seul à avoir fait ça, tu vois. Enfin,
oui, ou même à table, surtout en France, où on a une culture très liée au pinard. Voilà. Le papy, il te met un coup de vin rouge, voilà, à 12, 13 ans pour te faire goûter.
Exactement. Donc, c'est un peu hypocrite. Dire ça, surtout qu'en plus aujourd'hui avec le cannabis, on arrive à sortir des gens qui étaient sous opiacés. Donc le principe de oui, mais de toute façon vous détruirez jamais le marché noir. Évidemment qu'on détruira jamais. Il y a du marché noir sur tous les marchés légaux.
Là, Julien, je pense qu'on reviendra dessus après sur la partie légalisation. Non, mais parce que je sais que tu as un avis aussi très très bien construit sur la dépénalisation, notamment. Mais pour revenir un peu sur les modes de consommation. Donc toi, de ce que tu vois en Californie, ceux qui ont accès au THC ne vont pas vers des sous-produits du type HHC, etc.
Le CBD, en fait, marche beaucoup que dans les pays où c'est pas légalisé. Dès l'instant où tu légalises dans un pays, le CBD, les ventes de CBD disparaissent. Plus personne veut acheter du CBD. Plus personne, j'exagère. Mais tu vas voir, les ventes vont chuter et le prix du marché, le prix du kilo va chuter aussi. Et Et à la longue, après, sur un marché légal, ça fait pareil avec le THC. Donc, encore une fois, bon, pour revenir vite fait sur la prohibition, on a toujours un pic de consommation dès l'instant où on légalise, et après, ça retombe méchamment. C'est ce qu'on voit ici, quoi. Donc,
du style sur un an ou sur un peu plus de...
Non, c'est un peu grand temps. Dans 2016, et je dirais jusqu'en 2000, ça a été très vite, hein, ça a pris 2 ans, je pense. Dans les 2 ans, voilà, c'est monté et c'est redescendu, voilà, en flèche, quoi. C'est simple, quand le produit est légal, il est plus cool. Quand c'est plus cool, c'est moins attractif, c'est tout. C'est tout. Moi, à la base, j'ai pas fumé parce que je voulais me défoncer, je savais même pas ce que ça faisait, j'ai fumé parce que c'est interdit, tu vois. Mon premier pétard, tu vois. C'est avéré que bon, c'était une des meilleures choses que j'ai fait de ma vie, mais. Mais à la base, ouais, c'était juste parce que c'était...
Ok. Et sinon, sur les autres modes de consommation que tu vois aux États-Unis, donc par exemple, tout ce qui est concentré, est-ce que pour toi, c'est une mode ou c'est vraiment quelque chose qui s'installe et qui durera?
C'est un truc qui va durer. C'est un truc qui va durer. Je vois ça depuis... Ça a toujours été... Quand je faisais même mes premiers voyages à LA, je ramenais des concentrés en France et ça n'existait pas en France. Hein. Et je leur ramenais même du distillat qui est peut-être... qui est pas le meilleur des concentrés, honnêtement, mais je ramenais de la wax, je ramenais du BHO, je ramenais tout un tas de trucs. J'avais ramené un des premiers dabbers, même. Mes potes, mais c'est quoi ce bong avec l'espèce de douille en métal, nail, tu vois, à l'époque, il fallait chauffer le nail. Maintenant, ils sont en verre et tout, mais je faisais dabber mes potes, ils vont taper des crises blanches parce que je suis habitué, mais non, c'est pas une mode. Mais par contre, les modes de consommation sont différents. Il n'y a pas la culture du hashish comme on a en Europe. C'est plus difficile pour eux de consommer du hashish. Déjà parce que le hashish en Europe se consomme essentiellement avec du tabac. La plupart des cas. Et ici, c'est vraiment les nazis de la cigarette, quoi. T'es plus, sincèrement, si j'exagère pas, t'es mal vu si tu fumes des clopes. Tu seras moins mal vu si tu fumes un joint.
Écoute, l'occasion est trop belle pour te placer ça. Quand tu disais tout à l'heure, si t'as le choix entre la cocaïne et, pour faire le lien avec le tabac, pardon, le choix entre de la cocaïne chez Pfizer ou chez Narcos qui fait ça dans la jungle en slip avec, du gaz, avec de l'hélium, ou je sais pas quoi, là, du gasoil. Et ben, finalement, même si je te dis que je prendrai le truc qui est bien tracé et bien, bien pur, je sais pas si je ferai. Et on le voit avec la filière du CBD en France. Finalement, la niche du CBD made in France tracé avec un QR code qui marche dessus où t'as des vraies analyses derrière, un peu joli, qui sent bon, qui sent un truc complet et pas un truc tout marron qui craque quand tu le presses.
Ouais.
Et ben, c'est un tout petit marché. Et en fait, pour faire le lien avec le tabac, c'est que, au final, en France, Qu'est-ce que les gens ont à faire de d'où vient le tabac, de à quel point c'est bon ou mauvais. On dit qu'il y a des additifs, pas d'additifs. Ouais. En vrai, quand les gens arrêtent de fumer, c'est à cause du prix ou à cause des problèmes de santé, mais c'est pas à cause de problèmes de qualité du produit. Personne ne regarde ce qu'il y a dans ces cigarettes.
Quand j'ai acheté mes clopes, c'était si j'avais pas de thunes, je choisissais en fonction du prix, et sinon c'était par rapport au goût. Mais je m'en foutais s'ils mettaient des produits. D'ailleurs, on pourra faire un parallèle avec la cendre blanche aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup de mythes sur la cendre blanche qui serait soi-disant un gage de qualité. Il faut savoir que l'industrie du tabac met des produits chimiques depuis une centaine d'années pour avoir une cendre blanche. Donc, c'est pas cendre blanche, on n'a jamais pu avoir une plante qui est bourrée de produits et qui va avoir une cendre blanche. Ça ne veut rien dire. Et
connaissais pas ça. C'est quelque chose qui est là depuis longtemps, qui se dit depuis longtemps.
Ça se diffuse un peu et ça fait partie des mythes qu'on a dans cette industrie qui perdure. Enfin, moi, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres, hein, qu'il fallait faire bouillir les racines de tes plantes avant de les récolter parce que ça fait monter le THC dans les têtes, de les suspendre à l'envers parce que ça fait tomber le THC dans les têtes. En ayant un gros shop, j'ai eu des mecs qui m'ont sorti des vertes et des pas mûres, des mecs qui arrosaient au jus d'orange. Il y en a un carrément, il mettait du vin, du lait. Enfin, je disais, mais tu fais de la cuisine ou tu cultives? C'est pas un délire.
Ouais, c'est top.
Ouais. Donc, mais il y a beaucoup de mythes qui perdurent et justement, c'est ce que je fais un peu sur Instagram. J'essaye un petit peu de donner un avis un peu objectif et d'avoir du recul.
On se fait une parenthèse mythbuster, une parenthèse où t'as 2-3 mythes qui deviennent et tu sais pertinemment que c'est du bullshit.
Mais déjà, de choisir ton cannabis à travers le THC, plutôt le THC, ça, c'est pas parce qu'il y a plus de THC qu'il est plus, déjà qu'il est plus nocif, parce que en général, les états prohibitionnistes, ils ont tendance à vouloir juger par rapport au taux de THC. On va pas légal, enfin, tout le cannabis est légal en dessous de 25%. Au-dessus de 25, ça sera pas légal. Ça a pas de sens parce que qu'est-ce qui est mieux pour toi de consommer 4 joints de plantes qui fait 6% pour avoir le même effet qu'une toute petite goutte de dab va le faire. Physiologiquement, ton corps, c'est mieux que tu fumes, que tu vaporises même une goutte qui fait 80% de THC plutôt que de fumer 6 joints à 10%. tu vois, c'est, tu mets tellement de fumée dans tes poumons avec le papier, avec, donc ça, déjà, il y a ça. Au niveau de la culture, ben, la cendre blanche, il y a d'autres mythes, ben, la culture bio qui serait, qui produirait une plante de meilleure qualité que la culture minérale. Et ça, ça m'a fait du mal. Il a fallu vraiment que j'avale la pilule parce que je te dis ça, ça. Donc, pendant des années, moi, je faisais toujours de la pub de la culture bio et sans dénigrer ceux qui faisaient du minéral, mais j'étais toujours en train de leur expliquer que c'est mieux et que machin. Et en fait, aujourd'hui, on a des tests laboratoires et 100% des mecs qui me disent qu'ils font la différence à chaque fois. Enfin, je l'ai pas fait beaucoup de fois, mais je l'ai fait au moins 4 fois. J'ai cultivé leurs plantes en hydro du même clone, hein, issu de la même mère, en hydro et en living soil. Ils sont incapables de me donner la bonne réponse, de savoir laquelle est en bio, laquelle est en... C'est impossible. Un test laboratoire pourra même pas te le dire parce que mais on a des tests qui vont varier. Des fois, les taux de terpènes et de THC seront plus élevés en hydro et des fois, ils seront sur la même plante, ils seront plus élevés en bio. Donc, ça dépend vraiment de
en indoor.
En indoor, ouais.
Ok. Et t'as des hypothèses de pourquoi ça varie comme ça, alors?
Ben, la façon de cultiver, déjà, est-ce que le mec a fait un travail exemplaire jusqu'au séchage? Des fois, okay. Ça peut changer. Ouais. Ou alors, des fois, simplement, là où tu prends l'échantillon, toutes les valeurs sont pas égales partout dans la plante. Donc, rien que ça, tu vois. Et après, comment a été traité ton échantillon? Il y a tellement de façons de trafiquer aussi les tests laboratoires. C'est ce que je faisais justement sur le poste. La cendre, le taux de THC, le fait de faire bouillir ou de stresser ta plante. Il y en a qui disent qu'il faut planter des clous dans le tronc parce que ça les stresse, du coup, ça produit plus de THC. C'est des simplifications, en fait, si tu veux. Par exemple, le fait de stresser ta plante, de planter des clous, ça fait pas plus de THC. Mais par contre, de stresser ta plante d'une certaine façon à un certain moment donné, effectivement, tu vas favoriser plus une pousse qui va favoriser le rendement ou plutôt une pousse qui va favoriser la qualité. Donc, par exemple, quand tu fais du crop steering, c'est une façon d'arroser ta plante dans les règles de l'art, en fait, de lui donner absolument ce qu'elle veut et de mesurer tes dry backs, c'est le séchage de ton pot. Et donc, plus tu fais sécher, évidemment, il faut le mesurer, hein. Tu peux pas faire sécher comme ça à l'arrache. Il faut que tu mesures le pourcentage de sécheresse. Ben, tu vas être soit en croissance végétative ou en croissance générative. Croissance générative est plus basée sur la qualité. Croissance végétative est plutôt basée sur la production de masse, de biomasse.
Voilà. Ok, trop cool.
J'étais clair. Dans ma tête, c'est clair, mais des fois, je parle.
Mais je pense qu'il y a certains sujets autour du cannabis. De toute façon, je le disais un peu en off d'abord. Avant l'enregistrement, c'est tellement complexe, ça va tellement loin. Donc, par exemple, sur le sujet de la culture, je pense que tu pourrais nous parler pendant 3 heures non-stop. Ah. Et tu n'aurais pas assez de temps pour expliquer tout ce que tu as envie d'expliquer avec toutes les nuances qu'il y a à avoir, parce qu'on parle de vivant, parce qu'on parle de sujets complexes.
Alors, honnêtement, si tu savais le nombre de gens qui trouvaient que j'étais chiant avec mes potes, quand je parle avec quelqu'un qui est intéressé par ce que je dis et qui rajoute aussi à la conversation, on passe les couilles à tout le monde, on fait chier tout le monde.
Non, mais ça, c'est des passionnés. Il y en a deux qui parlent de mécanique à côté, qui peuvent te parler de moto pendant 3 heures à côté. Eux, ils sont passionnés et toi, t'es à côté. Exactement. Du coup, je pense que c'est le bon moment aussi. C'est vrai que dans ton live, tu parles de culture de tissu. Mmh. Je t'avoue que j'imagine ce que c'est, mais je préfère que tu nous l'expliques bien correctement. Et quels sont ses avantages et ses inconvénients?
Ok. Alors, la première chose, c'est pourquoi est-ce qu'on utilise la culture des tissus? C'est parce qu'il y a une vraie pandémie dans le milieu du cannabis qui est mondiale. Et on a, donc, il y a des rapports qui sortent à 85%. Le dernier que j'ai vu, c'était 71%. Ça reste très, très haut. On a, on va dire, entre 70 et 80% du cannabis mondial qui est infecté par le virus du. Qui est un virus qui est.
On t'a pas entendu, pardon. Je t'ai pas entendu.
Du houblon.
Ah, le virus du houblon, comme dans la bière.
Voilà.
Ok, d'accord.
Le houblon est une cannabinacée, et donc de la même famille que le cannabis. Et donc, il se passe des petites maladies comme ça entre eux. Et donc, ce virus est extrêmement contagieux. Il se passe de la plante, d'une plante à une autre plante. C'est-à-dire, si tu as des mouches, par exemple, qui se posent sur la plante et qui viennent se poser sur l'autre plante, elle peut le passer. Si les plantes se touchent, elles se le passent. Si tu prends un cut sur une plante et que tu désinfectes, tu stérilises pas ton matériel, tu prends un autre cut, tu le transmets. Donc c'est extrêmement virulent et le virus se passe de la mère à la graine aussi. C'est une sorte de sida du cannabis, en fait. C'est-à-dire que ça détruit le système immunitaire et ça va détruire la vigueur de la plante, le rendement, le taux de cannabinoïdes et le taux de terpènes. Donc, c'est un vrai problème. Et ils ont commencé, en fait, ils s'en sont rendus compte il y a quelques années de ça en Californie parce que les mecs faisaient tout dans les règles de l'art. Ils avaient des opérations de malades, vraiment qui étaient rodées, huilées parfaitement, où tu peux manger par terre. Des génétiques de ouf, des employés consciencieux. Donc, au début, ils ont commencé à accuser les cultivateurs de ne pas faire leur travail parce que quand tu sais que tout ce qui est technique, tout est réglé, tu sais qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, tu cherches le facteur humain. Mais les mecs faisaient leur travail. Donc, ils sont mis à faire des tests PCR sur les plantes. Et ils se sont rendus compte que, justement, ben, toutes les plantes étaient infectées avec cette merde. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de moyen de tuer ce virus, parce que comme tout virus, une fois que tu l'as, il est dans ton système. Tu t'en sors pas. C'est comme un herpès, comme le sida. Et donc, le seul moyen qui marche pour ça, c'est la culture de tissu, entre guillemets, la culture de méristème. Parce que c'est pas vraiment une culture de tissu, c'est vraiment une culture de méristème. Parce que le méristème, lui, ne contient pas de... Le méristème, en fait, c'est ce petit cerveau qui est à l'intérieur de la plante, de l'apex de la plante. On en trouve un peu partout, hein, mais celui qu'on utilise, il est dans l'apex. Et c'est vraiment le code génétique de ta plante, et il ne contient pas de système vasculaire. Et donc, le virus, lui, ne circule que dans le système vasculaire. Donc, on récolte ce méristème, on enlève le système vasculaire autour du méristème, c'est-à-dire les feuilles, ça se fait au microscope, hein. On récupère ce petit cerveau et on le met dans un tube avec de la nourriture et des hormones pour favoriser une culture, une croissance de feuilles dans un premier temps. Donc, ce petit méristème va reconstruire un système vasculaire tout neuf, qui n'a pas de virus. Et ensuite, une fois qu'on a construit ses feuilles, on le transvase dans un autre tube qui, lui, va favoriser la pousse de racines. Quand les racines arrivent, maintenant, on se retrouve avec une plante, toute petite plante, et qu'on met dans un pot, qu'on met en quarantaine. Et une fois qu'elle est assez grande, on prend un morceau de racine et on fait un test PCR là-dessus pour être sûr que la plante est
infectée. Ok. Voilà. Et alors là, du coup, alors déjà, c'est incroyable se dire qu'on va aller extraire une petite partie d'un cerveau pour qu'il reprenne ensuite, enfin qu'il recrée tout. C'est assez incroyable. Ouais. Et donc là, du coup, ça fait qu'on a une plante qui n'est pas infectée et c'est une plante qui n'est pas infectée et qui en plus est résistante. Ou si si elle est au contact du virus, elle l'attrape quand même.
Ah non, elle est résistante. Son système immunitaire est toujours en meilleur état que ce qu'était avant, mais non, elle peut toujours le rattraper. C'est pour ça qu'il faut, il faut être super drastique sur les méthodes employées, sur les laboratoires et tout ça. Et c'est pour ça que aujourd'hui, beaucoup de grainetiers, en fait, vendent des graines pas chères. Vous pouvez des graines à 60 balles les 10. Mais parce que les mecs, comment tu dis?
Je sais pas.
Non, en fait, comment tu dis?
Me dire en anglais, comment tu dis?
Même en anglais, je ne l'ai pas.
Ah, dommage.
Ils utilisent des cultivateurs, par exemple, en Colombie, et ils font fabriquer de la graine pour quelques centimes. Donc, ils font de la graine à 10 cents, 20 cents, 50 cents, 50 cents. Et ensuite, donc, ils importent ça en Europe et mettent leur marque dessus. Et voilà. Mais le truc, c'est que entre 70 et 80% du cannabis est infecté. Donc, même si toi, tu as des plantes qui sont en bonne santé dans ton jardin, tu mets une plante infectée, tu vas infecter tout ton jardin. Et c'est pour ça que...
Dès la graine. En fait, la graine elle-même peut... D'accord, ouais, ok. C'est pas une plante vivante à une autre. Ok.
Mais en fait, non, mais la graine, elle va devenir une plante.
Oui, mais ok. Mais je veux dire, même si on l'achète sous forme de graine...
Elle peut l'avoir, oui, parce que la mère...
D'accord, c'est ça.
Parce que la mère ne transmet pas la graine, quoi. Donc, peut le transmettre à la graine. Pas à chaque fois, mais elle peut le transmettre à la graine. Et donc, du coup, on a des cultivateurs, en fait, qui travaillent bien, mais ils comprennent pas pourquoi leur culture marche pas. Parce qu'ils ont certainement infecté par cette merde. Donc voilà, je pense que c'est important. Je pense que c'est, de toute façon, il y a que comme ça que le cannabis devrait être cultivé, dans tous les cas. Après, c'est pas une question de...
Quand de culture en tissu?
Ouais. La base, alors, si tu prends Jungle Boys, tous les plantes qu'ils cultivent, tout est cultivé en tissu de culture. En culture de tissu, pardon. Ça a rien à voir avec le client, parce que le virus, lui, il fera rien au client, il fera rien au consommateur. Mais ça a à voir avec ta production. Donc, quand tu es un professionnel ou que tu veux cultiver pour toi, il faut que tu partes déjà avec une bonne base de génétique, surtout si tu es consciencieux sur ton environnement et sur les soins que tu apportes. Donc, Jungle Boys, ils le font pas pour avoir un produit propre pour les clients, parce que ça fait rien, ça change pas, ça va pas être dangereux pour les clients. Mais par contre, ils veulent être sûrs d'avoir le maximum du potentiel de leur génétique. de façon effectivement en fin de chaîne d'offrir le meilleur produit pour leur client.
Ok, et là du coup c'est peut-être un peu loin pour toi, mais tu penses que c'est quelque chose qui va se normaliser, le fait d'avoir, en fait, vu qu'on commence à industrialiser une culture, ben les maladies vont se propager plus vite, il y en aura plus, un peu comme le Covid finalement, tu vois, on voyage tellement en avion, il y a tout qui est tellement international. Tu vois ça aussi pour l'industrie cannabis, que cette plante, elle va être...
Bien sûr, okay. C'est déjà comme ça, hein. C'est déjà comme ça. Bah, le truc, moi, j'adore la culture intérieure parce que c'est là où tu contrôles tout, et j'adore apporter absolument tout sur un plateau à mes plantes parce que c'est là où tu vois vraiment le potentiel génétique. Mais le deuxième revers de la pédale, c'est que la médaille, je sais plus si c'est un comique qui disait ça.
Non, c'était bonne vanne.
Oui, non, c'est le bon qui disait ça parce qu'en fait, en plus, il fait un gay. Le revers de la médaille de ça, c'est que, en fait, on détruit les systèmes immunitaires. Enfin, on les détruit pas, mais on les fragilise parce que du coup, quand tu mets ta plante en outdoor, elle va être agressée constamment par le vent, par les différences de température, par les insectes, par le sol, partout, quoi. Donc, tu vas avoir des plantes vachement plus robustes. C'est pour ça que l'outdoor, finalement, pour moi, elle a pas un bag à pile qui est très attirant. Elle est en général très forte en chlorophylle, beaucoup de feuilles, des calices qui sont très petits, des bractées qui sont très petites. Voilà. En termes de saveur, par contre, pour moi, les plantes outdoor sont faites pour faire de l'extraction. T'as des concentrés de malades qui sont faits avec l'outdoor, c'est sûr. Mais pour moi, la plante outdoor, c'est un petit peu... elle n'est pas faite pour être consommée directement. Pour moi, elle est faite
par
pour
contre...
être...
Non, pardon, vas-y, termine ta phrase, je t'ai coupé un peu.
C'est l'équivalent du raisin, par exemple. T'as le raisin de table, ça serait la weed indoor, tu vois, qui est fait pour être mangé directement. Le raisin avec lequel on sert pour faire le vin, ça serait plutôt l'outdoor. On s'en sert plus pour faire les concentrés.
Justement, sur ces analyses, est-ce que ça, c'est quelque chose qui, aux États-Unis, je pense qu'on va rapidement aller sur le fait de... Je voulais parler des analyses terpéniques qui sont... Ah oui, voilà. Les analyses donc que vous faites des cultures, est-ce que vous les donnez aux clients? Est-ce que les clients américains les demandent? Et si oui, qu'est-ce qu'aujourd'hui un client en Californie, un client éduqué, demande et regarde dans un dispensaire?
Très peu de gens demandent, comme je te disais tout à l'heure avant le commence, client averti devrait déjà demander la date de récolte, et c'est pour ça que beaucoup de gens sont déçus quand ils arrivent aux States et commandent du Jungle Boys et en fait ils sont un peu déçus avec ce qu'ils ont dans le paquet parce qu'ils ont certainement acheté un échantillon qui a été récolté il y a 2 mois. La première chose à faire quand vous achetez de la weed ici, demandez la date. C'est pas la date de péremption parce qu'il n'y a pas de date de péremption, mais c'est une date de récolte. Et tout ce qui a dépassé les 4 semaines, moi je vous conseille de pas l'acheter. Demandez quelque chose qui a été récolté avant, qui a pas plus de 1 mois, allez 5 semaines, on va dire 5 semaines, parce qu'il y a des variétés qui tiennent bien. Mais et donc les gens demandent pas ça, demandent pas les analyses terpéniques, pas vraiment. L'analyse terpénique, en fait, pour moi, c'est juste, je trouve qu'elle a un intérêt pour le breeder et pour le gars qui va créer les variétés pour avoir un peu un visuel. Mais tu vas pas demander une analyse terpénique vraiment quand tu achètes de la bière ou du vin, par exemple. Ce qui t'intéresse, c'est de savoir si tu l'aimes, si c'est un bon goût, si c'est bon, si c'est, tu veux pas aller plus loin que ça, quoi. Donc,
analyse cannabinoïde, terpène et métaux lourds. C'est ce qui se fait pas mal en France. Un peu pour le consommateur, pour savoir ce qu'il va avoir en bouche, mais aussi et surtout pour prouver que ce qu'on lui vend est bien conforme. Si on t'avance tel taux, c'est bien tel taux, etc. Et pour le côté clean aussi.
Ouais, ça fait toujours plus sérieux. Bon, il faut savoir que les analyses, ça se trafique, hein, dans tous les sens.
Et ensuite, aux États-Unis aussi?
Spécialement aux États-Unis, mais dès l'instant où le laboratoire est privé, il faut savoir que le laboratoire, il a, pour vivre, il a besoin d'argent. Donc, il veut te fidéliser. Il veut, étant donné qu'il y a de la concurrence, pour te fidéliser, il te propose tout un tas de services. Si t'as weed, elle a un taux de THC qui est faible et qui ressort avec des pesticides, notamment pour l'oïdium ou des trucs comme ça, des produits que tout le monde utilise bien plus que les PGR, justement. Ils peuvent effacer, rajouter, enfin, c'est, les analyses, encore une fois, c'est un gimmick. En plus, parce que, mettons que tu vois une weed qui fait 3% de terpènes et l'autre qui fait 2% de terpènes, ça veut rien dire parce qu'il y a des terpènes qui sentent rien, il y a des terpènes qu'on peut pas détecter, nous, il y a des terpènes qui puent, vraiment. Donc, c'est 3% de merde, je préfère 2% de fruits, tu vois. Enfin, donc, ça fait plus sérieux, je te l'accorde. Ça fait plus sérieux, ça fait vraiment suivi. Mais pour moi, ce qui est important, vraiment, ça va être la date de récolte. Et puis après, je vais demander au bottender, tu vois, de dire bah, peut-être est-ce que tu n'as pas un truc plus fruité, est-ce que tu as un truc qui se rapproche de cette variété, est-ce que tu as. Et après, ce qu'il y a derrière, je m'en fiche parce que honnêtement, c'est déjà, tu ne seras pas forcément le lire, enfin, savoir qu'il y a 0,004 de myrcène et tout ça, enfin, ça, moi, même moi, ça ne me parle pas, quoi, tu vois. C'est ce qui me parle, c'est vraiment l'odeur. C'est vraiment de la première fois que j'ai senti de la Forbidden Fruit, ça m'a fait le même effet que la première fois que j'ai senti de la Jackerer. Je savais pas que la weed ça pouvait sentir ça. La Jackerer, quand j'ai senti cette odeur de bonbon, je me suis dit mais c'est pas possible, c'est pas de la weed. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et là après c'est pareil. Là je me suis vraiment ouvert à un panel d'odeurs avec des grapefruit, des pamplemousses, des agrumes. Des... Et la dernière en date c'était vraiment la Forbidden Fruit en 2018. Quand le mec m'a mis son joint sous le nez, ça m'a, ce jour, j'ai dû avoir la pupille qui s'est dilatée parce que ça m'a, putain, je savais pas que ça pouvait sentir comme ça le cannabis. Donc, direct, j'ai dit absolument ça, il m'en faut, quoi. Tu vois, c'est, mais le profil terpénique m'intéresse pas. Après, bon, c'est sûr que ça fait professionnel, mais encore une fois, je pense que c'est, mais ça reste mon opinion.
Eh bien, écoute, merci beaucoup. Tu me disais tout à l'heure que tu avais un rendez-vous après, donc, pas faire trop long, j'ai encore plein de questions. Il y en a au moins une que j'aimerais beaucoup te poser et j'aimerais aussi te laisser le temps si tu as encore un ou deux sujets dont on n'a pas parlé et que tu trouves intéressant. Ce serait dommage que tu repartes de là en te disant ah putain, j'aurais dû dire ça. La question que j'aime bien poser, c'est en fait depuis quelques temps, je me rends compte en France que ce soit des médecins, des personnalités politiques, des gens dans le droit. En fait, tout le monde est plus ou moins d'accord sur le fait qu'un encadrement par la loi du cannabis en France, ce serait mieux. Et pour autant, ça va pas dans ce sens-là, voire peut-être qu'on recule un peu, on verra bien. Et en fait, il y a quelque chose qui est assez frustrant, c'est de voir ça. Il y a quelque chose que je trouve assez intéressant comme exercice, c'est de demander aux gens, aux personnes qui sont pour un encadrement par la loi, pour la légalisation, de trouver un argument qu'ils trouvent valable dans le camp prohibitionniste et de dire ok, c'est vrai que cet argument quand même ils l'ont bien trouvé. Après je pense qu'on peut dire ça, on peut le contrer un peu comme ci comme ça, mais par contre cet argument c'est quelque chose qu'il faut pas négliger si on veut finalement réussir à convaincre.
Ouais. C'est une très bonne approche, c'est un petit peu mon approche aussi, c'est-à-dire que je me prends plus souvent la tête avec des pro-cannabis que des anti-cannabis, parce que pour moi l'anti-cannabis il n'y a pas vraiment de débat, pour moi il n'y a aucune raison valable. Cependant, il faut quand même qu'on soit droit dans nos bottes. Et il y a plein de trucs qui se passent dans cette industrie où moi, je me prends la tête avec des gens qui vont te dire, bah ouais, il faudrait que le cannabis récréationnel, ce soit les mineurs aient accès aussi.
Non.
Bah, si, il y a un groupe, je vais pas dire le nom parce que je vais pas trash les gens publiquement. Je te le dis si tu veux en perso, mais ouais, il y a un groupe qui prônait la consommation chez les mineurs, qui est un des plus gros groupes activistes de France, hein, d'ailleurs. Okay. Et pour moi, c'est à cause de ces gens-là que, en partie, en tout cas, qu'on n'avance pas. Parce qu'ils continuent de diffuser le cliché du stoner et du défroqué. Et le cannabis, c'est pas ça. Ici, ils n'ont pas légalisé avec Tommy Chang et Snoop Dogg. Ils ont légalisé avec des médecins, avec des avocats, avec des consommateurs comme toi et moi, qui sont propres, et qui sont articulés, en tout cas un minimum, voilà, qui sont responsables, qui sont pères de famille, mères de famille, médecins, enfin voilà. Donc, déjà, ces gens-là, c'est toujours le problème. Après, du côté de la prohibition, c'est une aberration de dingue. Mais le problème, c'est que déjà dans ce milieu, il y a des gens qui savent pas de quoi ils parlent et qui se sont déjà fait un nom pour eux. Et des gens qui sont très très gros dans l'industrie et qui déjà ne savent pas de quoi ils parlent. Alors t'imagines bien que nos politiciens, ils sont à des années-lumière de comprendre ne serait-ce que ce que c'est que la culture ou la plante. Ils écoutent juste ce qu'on leur met dans les oreilles, quoi. Ils sont à des années-lumière de comprendre. Bernard Kouchner qui parle de dépénalisation. Pour moi, un politicien qui parle de dépénalisation, mais pour moi, tu sonnes comme, enfin, pour moi, t'as l'air d'être un mafieux quand tu parles de dépénalisation. T'es un politicien. Pour moi, t'as des affaires dans le truc. C'est pas possible. La dépénalisation, c'est exactement ce qui est en train de se passer maintenant. Sauf que il y a plus de répression, il y a plus rien. Donc, tout le monde fait ce qu'on veut. Alors, c'est sûr, sous excuse de, ah, mais je vais pouvoir cultiver mes trois plantes chez moi. D'accord, ça, c'est très bien. Ça, on devrait tous cultiver. Même de toute façon, je fais de la graine. Donc, je suis toujours en train de conseiller aux gens de cultiver leur propre truc plutôt que d'aller dans les dispensaires où tu sais vraiment pas qu'elles sont trafiquées. Mais quand tu prends de la dépénalisation, je me suis perdu. En fait, c'est, j'y suis. En fait, tu peux pas. En fait, tu fais le jeu du trafic, en fait. Parce que même si tu as le droit de cultiver tes trois plantes, il va y avoir 15 groupes de trafiquants qui vont set up des opérations à l'arrache, qui vont cultiver en masse et qui vont inonder le marché avec du cannabis qui va être frelaté et qui va être terrible pour les consommateurs. Il sera pas contrôlé sanitairement. Et crois-moi, j'ai travaillé parce que la légalisation médicale en Californie, quand je suis arrivé, c'était plus ou moins une dépénalisation finalement. Parce qu'il n'y avait pas de contrôle sanitaire. Il n'y avait pas de contrôle de l'État. Très, très peu. Et je peux t'assurer que des boîtes qui certifiaient que leurs produits étaient bio et qui me forçaient, parce que j'avais du consulting et j'étais master board, et qui me forçaient à forcer mon équipe à mettre des pesticides dedans, il n'y a que de ça. Il n'y a que de ça. Parce que les mecs ont investi des millions ou des centaines de milliers de dollars. Il n'y a pas moyen que le mec, il s'assoie sur sa récolte s'il voit un pot de yodium. Il ne va pas dire, ah oui, on va y aller bio. Tu vois, il n'y connaît rien. Il a entendu son pote qui cultive dans l'autre ville ou peu importe. Moi, j'utilise ce produit. T'inquiète pas, tu fais un spray, tu es tranquille pendant 6 mois. Et ainsi de suite. Et donc, pour en venir à la dépénalisation, c'est une méthode terrible. Parce que s'il dépénalise, en fait, en essayant de voir si ça va marcher, le cannabis, ce qui va se passer, c'est que la consommation chez les jeunes va augmenter. Parce que maintenant, les jeunes, ils vont avoir accès parce que c'est pas contrôlé par l'État. Ici, on a 85% du marché qui est illégal à cause des taxes. Tu vois. Donc, on a quand même 15% qui est toujours légal, donc c'est déjà ça. Mais à la base, on était quand même à 60% de marché noir. Donc, on est remonté à cause des taxes, parce qu'il faut légaliser, mais il faut le faire intelligemment, il ne faut pas surtaxer.
Donc la légalisation a réussi à prendre 40% de la part du marché et c'est redescendu.
Et c'est redescendu à cause des taxes.
Voilà, c'est ça, d'accord.
Ouais. Parce que, voilà. Mais malgré ça, malgré qu'on soit à cette hauteur, ça veut dire qu'il y a 85% à LA, par exemple, le comté de LA, c'est 1000 dispensaires à peu près, et on a à peu près 850 dispensaires qui sont illégaux, mais qui opèrent en compliance avec la ville. Donc la ville les laisse tranquilles tant qu'ils respectent les règles. Donc même dans ces dispensaires illégaux, les gamins ne rentrent pas. Il faut que tu montes ta carte d'identité dans tous les cas. Donc même si on a encore du marché noir, il est contrôlé et parce qu'ils ne peuvent pas l'enforcer. Ça coûterait des milliards à la police de Los Angeles pour aller enforcer des mecs qui font de la weed. Ils préfèrent focaliser sur le fentanyl et la mettre.
Oui, là-bas, ils ont d'autres problèmes. Ouais.
Voilà, tu vois.
Ah, vous avez d'autres problèmes.
Ouais, donc... Malgré ça, les jeunes n'ont plus accès. Si demain tu dépénalises en France, les jeunes, ça va être la débandade. Et alors en plus, c'est sûr qu'ils vont s'amuser à tester le cannabis qu'on trouve dans la rue. Et là, les tests, ils vont pas être truqués. Hein. Les tests, ils vont être vrais et ça va être merdique. Et on va vous dire qu'on vous vend de la mort et que voilà. Et donc du coup, on risque même de reculer, de dire bah c'était pas une bonne idée, on arrête, on revient à la prohibition. C'est pour ça qu'il faut pas dépénaliser. Il faut un contrôle sanitaire du produit pour le client. Parce qu'à l'arrivée, c'est le client qui empathie. Ça va être les jeunes qui vont empathier et ça va être le client qui empathie. Et il faut un contrôle intelligent et parce que la taxation ici, elle est de 100%. C'est-à-dire que quand tu produis ici, tu es taxé sur le mètre carré de production, tu es taxé sur le poids du produit fini, tu es taxé sur le poids de la trim une fois que tu as trimé, tu es taxé sur le poids de concentré que tu vas faire avec ta trim, tu es taxé à la distribution quand tu vas voir ton distributeur, le distributeur est taxé au retailer, le retailer taxe le client. Il n'y a aucune autre industrie qui est taxée à ce niveau-là. Pas la bouffe, pas l'alcool, pas les clopes. C'est juste une aberration totale.
Pourtant, normalement, ils ne sont pas fans des taxes.
En Californie, c'est des développeurs.
Ah si, c'est en Californie, si.
Les États-Unis ne sont pas fans des taxes parce que justement, l'état d'esprit un peu républicain, nationaliste, justement, ils sont très proches de leur liberté. Et c'est justement comme ça qu'ils ont eu leur indépendance. C'est parce qu'à la base, ils se plaignaient des taxes. Donc, c'est un pays qui n'aime pas les taxes. Mais la Californie est un État démocrate basé sur le système socialiste et donc ça taxe au taquet. Et donc ils ont perdu énormément de grosses sociétés, Tesla, SpaceX, tout ça, ils se sont tous délocalisés. Et là, les deux dernières années, là, c'est tout le monde s'est barré, tout le monde s'est exilé au Texas ou dans le Tennessee, dans le Delaware ou dans des États où il n'y a pas de. Tu vois, par exemple, au Texas, il n'y a pas de taxe sur le revenu. La TVA, je crois qu'elle est de 3%. Tu vois, enfin, c'est
oui,
faisable.
Après, par contre, tu payes tous tes médocs. À chaque fois que tu vas chez le dentiste, tu payes plein pot. Les pompiers,
ça, c'est marrant. C'est toujours les Français. Ils reviennent toujours à la sécurité sociale, tu vois. Mais en fait, si tu veux, le coût de la vie. En fait, ici, la sécurité sociale, t'en as pour à peu près 500 balles. Et t'es couvert. T'es bien mieux couvert que ce que tu seras couvert ici. Et il faut savoir que le salaire médian, il est aux alentours de 3 500 $. Le salaire médian est aux alentours de 4 500 $ et le SMIC est aux alentours de 2 500 $. Tu payes pas, t'as pas d'impôt sur le revenu. La TVA, elle est, je te dis, de 3% et le gasoil, il coûte que dalle. Et en plus, tu payes pas tout ce qui est poubelle, assainissement et tout ça. Donc, à l'arrivée, ouais, tu vas mettre 500 balles dans ta sécu, mais t'es plus riche à la fin. que ce que tu as en France avec la sécu, parce qu'on te poignarde dans tous les sens. Donc il faut, c'est vrai que après c'est pas comme ça dans tous les États, mais tu as beaucoup d'États comme ça. Et c'est vrai qu'en tant que Français, on en revient toujours à notre sécu, mais bon, la sécu, il y a pas que ça, tu vois. C'est, oui, ça coûte cher, mais à l'arrivée, la qualité de vie est meilleure parce que tu fais plus d'argent de toute façon. Le gasoil au Texas, il est moins cher qu'à LA, et déjà à LA, je crois qu'on n'est pas loin de la moitié de ce que vous payez en France, quoi. Tu vois.
Ouais, là, on n'est pas bon là. Si on se fait un peu avoir.
Ouais. Donc après, je suis pas en train de te vendre là-bas. Après, je suis pas le bon cheval hein, pour dire de la merde sur l'Amérique. Moi, c'est lui, il m'a tout offert. Donc en France, j'ai été considéré comme un cancre. Quand j'ai réussi à avoir confiance en moi et à créer ma société, le RSI m'a poignardé tout ce qu'il pouvait. Enfin, maintenant, ça s'appelle l'URSSAF, je crois.
Ouais, l'URSSAF.
Ils m'ont poignardé tout ce qu'ils pouvaient, ils m'ont tout pris, quoi. Donc, et ici, je suis arrivé, pour faire du cannabis, je risquais la tôle. On m'a fouillé, on m'a traité comme un paria dès que je me baladais dans la rue, que j'avais l'air un peu louche. Je suis pas le bon cheval pour dire de la merde des States, tu vois. Je sais que, après, je sais, est-ce que c'est un pays qui est parfait? Non. Sauf que non. Est-ce que je pense que c'est
oui, mais comme partout, bien sûr.
Après, est-ce que je pense que c'est une brute épaisse? Oui. Est-ce que je pense qu'il y a une histoire qui est un peu niquée? Oui, mais bon, du point de vue de l'histoire, je veux dire, le principe de conquête, ça existe depuis la nuit des temps. Je veux dire, aujourd'hui, maintenant, même au niveau cellulaire dans ton corps, t'as de la conquête. Je veux dire, c'est intrinsèque à la vie, la conquête. Donc, de parler de colons et de machin, oui, d'accord. Après, on dira, ah ouais, c'est le petit blanc qui dit ça. Mais tu vois ce que je veux dire? Enfin, bref.
Non, oui, et puis de toute façon, personne n'est vraiment responsable pour ce qui s'est passé il y a 200 ou 300 ans.
On est d'accord. Je veux dire, encore une fois, tu vois, je suis sûr que dans les délires, on parlait.
Non, mais ce serait marrant, tu vois, de voir dans 100 ou 150 ans, bon, tu parlais de psychédéliques tout au début, ça, c'est quelque chose aussi qui, en France, commence à susciter beaucoup d'intérêt. Comment est-ce qu'ils verront, justement, cette période un peu où on savait pas trop, prohibition, pas prohibition, cannabis, oui, alcool, bah, du coup, oui, psychédélique, oui ou non. Peut-être qu'en fait, dans 150 ans, il y aura beaucoup moins de règles, ou au contraire, ce sera...
Je pense qu'on aura grandi déjà dans notre tête, et on aura beaucoup moins d'a priori. Mais pour moi, il faut que ce soit légal pour être contrôlé, correctement, encore une fois, pas contrôler mon état d'esprit d'Américain, entre guillemets, veut aucune mainmise par l'État sur mes trucs, mais vis-à-vis du client, c'est mieux que ce soit contrôlé sanitairement. Si tu légalises l'alcool, il tue des gens. Tu sais qu'il y a une étude là qui est sortie aux États-Unis. La moitié des gens qui ont buté des gens étaient alcoolisés, en état d'ébriété, avec de l'alcool dans le sang. Et la moitié des gens qui se font buter sont aussi alcoolisés. Donc, partant de ce principe-là, en sachant que ça détruit tellement de vies et qu'on nous le vend sans vergogne, que même, soi-disant, le médecin a dit que c'était bon pour la santé. Ça, alors avec la merde qu'il y a dans le vin, on te dit que c'est bon pour la santé parce qu'il y a des polyphénols,
des antioxydants,
des antioxydants. Mais mange des blueberries, il y en a beaucoup plus dans une blueberry que dans un verre de pinard, quoi. Tu vois, donc pourquoi du vin? Tu vois, c'est encore du lobbying. J'ai rien contre l'alcool, hein, parce que je suis même pas de ceux qui opposent l'alcool au cannabis. Moi, je te dis, je suis petit fils de sommelier, de viticulteur, donc j'ai rien contre. Mais par contre, je trouve que c'est une hypocrisie. Le problème, c'est qu'en France, on a toujours eu des débats biaisés où, par exemple, d'un côté, t'as Doc Gynéco, complètement allumé, à je sais même pas quoi, des fois, on dirait même pas que c'est du cannabis, hein, parce que, et en face, t'as une mère épleurée, qui a perdu son gamin parce qu'il avait fumé du shit et il a eu un accident de mobylette, il est mort. Je veux dire, quand tu vois ça, même moi, j'ai pas envie de légaliser quand tu vois ça. Donc, évidemment que le français moyen, il voit ça, il dit, bah ouais, non, c'est des drogués, regarde l'autre allumé, là, il ressemble à rien. T'as envie que ton gamin, il soit comme ça. Tu vois, donc, forcément.
Et alors, Autre question qui souvent est assez intéressante pour faire avancer le débat pour ou contre la légalisation, c'est finalement comment est-ce que on présente ça aux non-consommateurs? Comment est-ce qu'on fait pour convaincre les non-consommateurs qu'il vaut mieux un encadrement que de le laisser au marché noir?
Déjà, alors c'est une bonne question, mais déjà les non-consommateurs, j'ai envie de dire, ça les regarde pas, quoi. Tu vois, tu vois, t'as pas.
Si, parce que les non-consommateurs, c'est peut-être justement la maman épleurée, la copine.
D'accord, ok.
Oui, en fait, le truc, c'est que s'il n'y a que les consommateurs qui militent pour leurs propres droits, en fait, ça restera toujours un peu du style « Ouais, regarde, les drogués, ils font un peu du droit pour essayer de justifier leur pratique, tu vois. »
Ah ouais,
en fait, si c'est des non-consommateurs qui disent « Non, attendez, moi aussi, ça me concerne, la légalisation, j'en ai envie parce que… » Tout de suite, il y a beaucoup plus de personnes qui sont touchées.
En tant que parent qui est concerné, honnêtement, je... Pour moi, je vois pas l'intérêt de garder la prohibition. Est-ce que tu préfères, tu sais que de toute façon, si tu es assez intelligent, que tu as un peu du jeu, tu sais que ton gamin, s'il va consommer. Donc, soit tu connais ton gamin et tu sais qu'il consomme pas, et très bien, tant mieux pour toi. Et il arrive à, et dans tous les cas, on est humain. Donc, si c'est pas le cannabis, ça sera les hamburgers. Si c'est pas les hamburgers, c'est le jeu vidéo. On a tous des vices, de toute façon. Parce qu'on est humain, on n'est pas des machines. Donc, mais si dans ce cas-là, c'est le cannabis, et tu sais que dans tous les cas, ton gamin, il va consommer du cannabis, ben, déjà, avoir une conversation ouverte et expliquer. Déjà, être éduqué, déjà, je pense que les gens, il faut que tout le monde s'éduque sur le cannabis, parce que c'est ça le problème, c'est que les parents aussi ne sont pas éduqués et comptent justement sur l'infantilisation par le gouvernement. Donc ça, c'est aussi un problème. Mais si tu as le choix, si tu sais que ton gamin, il va consommer du cannabis, s'il a le choix entre aller se faire charcler dans une tour ou aller dans un magasin où il sera servi par un mec en polo et qui va vraiment l'aiguiller sur la qualité des produits, qu'est-ce que tu... Ou alors, encore mieux, que tu sais que ton gamin, ben, il cultive sa propre herbe et au moins tu sais que c'est carré, tu vois, il risque pas sa life. Mais moi, en tout cas, j'inciterai jamais mes gamins à consommer quoi que ce soit, en aucun cas. Et je pense que même s'ils consomment, je pense que je garderai un œil dessus parce qu'il y a un temps pour tout, il y a un temps pour consommer, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour être actif. Donc ça, je suis assez... Je fais déjà la guerre, pas la guerre, mais je suis déjà assez strict avec mes employés, donc... Il n'y a pas de raison que je le sois pas avec mes enfants. Déjà, donc, il y aura déjà ça, un encadrement déjà parental. Et ensuite, mais je préférais 100 000 fois que mon gamin cultive son cannabis. Je me suis cogné. que mon gamin cultive son cannabis. Donc, ouais, de ce point de vue-là. Et ensuite, pour les non-consommateurs, donc, je disais vraiment que ça concerne pas. Ils sont concernés un petit peu par rapport à la sûreté dans les villes. Du coup, si tu légalises tous ces trafiquants, tous ces mecs là qui sont obligés de faire ça lâche, on a en plus, mec, on a un potentiel en France, mais c'est d'une tristesse. On a un palais en France, chose qu'on n'a même pas ici en States, tu vois. Après, pas pour faire un faux amalgame avec la bouffe américaine, parce qu'ici, franchement, la meilleure bouffe que j'ai mangée, c'est probablement ici. Et pourtant, je viens du Sud-Ouest, tu vois, on mange des foie gras, des machins. Mais
dis donc.
Mec, je suis à Los Angeles.
Qui... Non, mais ok.
Je suis allé dans des restaurants avec des chefs étoilés. Enfin, les plus grands chefs, ils sont ici. Ils sont à New York, ils sont à LA, il y en a à Paris, tu vois. Mais dans le Sud-Ouest, il n'y en a pas tant que ça, tu vois. Il y en a, mais j'en ai plus ici. Le problème, c'est qu'en France, on est réfractaire. On a une espèce de culture de quand c'est nouveau, c'est un scam. C'est fou, quoi. Et je lisais un article il y a quelques années de ça sur Internet qui disait « Ah, mais maintenant, Internet, c'est niqué parce que les ricains, ils ont tous les domaines, on peut plus rien faire sur Internet, tout est bloqué. » Et moi, j'étais là dans ma tête, je me dis « Mais mec, vous n'avez pas voulu investir dans Internet à l'époque. Vous n'en vouliez pas. » Et aujourd'hui, c'est pareil avec le cannabis. Et dans 20 ans, parce que le cannabis sera légal, que les gens le veuillent ou non, les prohibitionnistes le veulent ou non, le cannabis va être légal. La prohibition... On a en France, c'est même pas la France qui l'a mis en place, c'est les États-Unis qui ont mis une prohibition internationale. Le jour où on légalise fédéralement ici, les mecs, vous allez suivre. C'est tout, ça va être. Vous n'aurez pas le choix. Je veux dire, il n'y aura pas de vote. Déjà parce que vous ne votez pas les lois, donc il n'y aura pas de. Enfin, vous n'aurez pas le choix. Mais dans 20 ans, on dira ah, mais c'est niqué, maintenant c'est les Américains qui ont tout le marché. Ben ouais, mais parce que putain, vous ratez le train. Alors avec.
Et qu'est-ce que tu vois comme avance que peuvent prendre certains pays comme les États-Unis ou le Canada ? Sur lequel le retard va être trop grand, sur la génétique, sur les modes de culture, sur le marketing, sur qu'est-ce qui te semble être vraiment un avantage à prendre en premier qui sera trop dur à récupérer?
Le marketing, déjà, lire une industrie. Je pense que les Américains sont toujours très doués, toujours en avance pour lire n'importe quelle industrie, que ça a été le jeu vidéo, que ça a été même l'alcool, le tabac. Ils sont très forts dans ça. Donc, ils auront toujours une avance là-dessus, ça c'est sûr. Et aussi le fait que la culture américaine, si tu veux, c'est un pays qui a appris, qui vraiment comprend. Je trouve que les Américains comprennent mieux la vie que la France, dans un sens où, alors j'ai l'impression que j'ai en train de bâcher la France, comme un bâtard, mais c'est pas
le
cas.
Non, mais c'est... Mais quand on compare, forcément, il faut...
Pour moi, en fait, en France, on te dit, si tu travailles bien à l'école, t'as des bonnes notes, ça débouche sur des diplômes, tes diplômes, ça débouche sur un CDI, sur un CDD, ton CDD débouche sur un CDI, ton petit pavillon, ta petite femme, ton petit chien, et t'auras ta petite retraite sans problème. Ça, c'est une utopie. Enfin, et les gens ont besoin de ça parce qu'ils ont besoin d'une certaine stabilité. Mais c'est une fausse stabilité, c'est un faux sentiment de sécurité. Parce que la vie, elle n'est pas linéaire. Et on l'a bien vu pendant le Covid. Tu vois ce que je veux dire? Tout s'est cassé la gueule d'un coup. Et là où les Américains sont plus préparés à ça, enfin, moi, je vais dire, mes parents, ils sont à la retraite, ils travaillent depuis qu'ils ont 14 ans, ils finissent avec 800 balles de retraite. Et ils sont passés à ras de la réforme. D'un peu plus, ils allaient encore obligés de gratter. Ils étaient encore obligés de gratter pendant 2 ans ou 3 ans de plus. Alors qu'aux États-Unis, ils comprennent que la vie, c'est pas ça. Le principe du CDI aux États-Unis, c'est un concept qui n'existe pas. Enfin, ça existe, mais c'est dans très rares endroits. Tu peux pas. C'est un pays qui crée sans arrêt de la richesse parce que c'est un pays entrepreneurial qui favorise les entrepreneurs de toute taille, les géants monstrueux et puis les tout petits. Tu vois, donc tu peux pas. Le principe de CDI, il fonctionne pas. Tu peux pas donner un contrat à vie pour quelqu'un sans savoir que dans 6 mois ou dans 10 ans, le mec il fonctionne qu'à moitié de sa puissance. C'est une aberration quand t'es patron. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, les Américains savent que du jour au lendemain, ils peuvent se faire lourder. Tu vois, c'est, tu prends tes clics et tes claques dans ton carton, comme tu vois dans les films, et tu t'écartes. Mais ça, si tu veux.
Aux États-Unis, on peut baisser le salaire, non? Dans tous les États?
Je sais pas si on peut baisser le salaire parce qu'il y a quand même un salaire minimum. Mais après, est-ce que tu peux avoir une baisse de salaire? Honnêtement, c'est possible. Je suis pas au courant.
Ok, d'accord.
Okay. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu peux te faire lourder du jour au lendemain et sans problème. Quoi. C'est pas. Et ça, en France, ça fait peur quand tu de voir ça. Mais eux, ça leur fait pas peur. Enfin, c'est pas que ça leur fait pas peur, mais c'est juste que c'est la vie qui est comme ça. La vie, elle est pas linéaire. Et ça, la vie, c'est un combat. Et donc, du coup, ils se font lourder aujourd'hui. Dans les 3 jours, ils ont un emploi. Parce qu'il y a des entrepreneurs partout qui cherchent de la main-d'œuvre. Tu vois? Donc, je l'ai vu, et ça fait plus de 10 ans que je suis là, je l'ai vu, mais des dizaines de fois, ça. Notamment avec ma femme, qui a fait ça. Se faisait lourder. Moi, j'étais là, putain, non. Elle peut pas blaser, quoi. Elle me dit non, mais t'inquiète et tout. Dans la semaine, elle avait un job. Il y a du job pour tout le monde, quoi. Donc, et c'est dans ce sens-là où les États-Unis, ils ont bien compris, en fait, que c'est la vie, en fait. T'as pas vraiment de sécurité. T'as pas de sécurité. Mes parents, ils croyaient qu'ils étaient sécures toute leur vie, tu vois, et puis ils finissent à 800 balles. Et quand je vois, encore une fois, tu sais, j'ai des avis très controversés, des opinions très controversées, hein, donc à mon avis, tu vas avoir des retours sur ce truc, mais quand je vois des Français dans la rue qui se battent pour rester esclave jusqu'à 60 ans, pour moi, c'est une aberration. Je comprends pas ce principe-là. C'est te battre pour rester esclave. Non, émancipe-toi, crée de la valeur, garde ton job, mais crée quelque chose à côté. Fais ta passion, essaye de la développer, essaye de trouver des clients, essaye d'aider les gens, d'apporter une plus-value, tu vois, et de t'émanciper de ce système, de ton gouvernement. Mais le truc, c'est qu'on aime, on aime être entouré de blouses blanches et de képis en France, quelque part. Et tu me diras, avec les émeutes qu'il y a en ce moment, tu me diras non, mais c'est juste parce que ça explose une fois de temps en temps. Mais la plupart du temps, les gens, ils aiment ça. Ils aiment ça qu'on leur dise à quelle heure sortir. On l'a vu pendant le Covid, à quelle heure tu dois sortir, à quelle heure tu dois faire ci, à quelle heure tu dois faire ça, et tu peux pas faire ça. Ça leur donne un sentiment de, tu sais, c'est comme les chats qui se sentent en sécurité dans une boîte tout compactée, tu vois. Mais pareil. J'ouvre ma porte à tout le monde, moi. Les mecs qui veulent venir à LA me rencontrer, c'est avec plaisir. J'ai toujours ouvert ma porte à tout le monde. Et au contraire, même si les mecs, en plus, ils ont des projets, même si c'est de venir ici, de s'installer, je vis pas dans le scarcity, j'ai pas un mindset de toujours dans la peur du manque. Je vis dans l'abondance, donc si tu veux venir, j'ai pas peur de la compétition. Tu vois ce que je veux dire? Je suis le seul, c'est quand même une aberration. Je suis le seul breeder qui a créé une marque dans tous les states de France. Il y en a pas d'autres, quoi, qui ont créé une autre marque. Comment ça se fait? Donc si tu veux, j'ai pas peur de la compétition. Tu vois, moi, ils peuvent venir. Et au contraire, quand je vois des Français, sachant qu'en plus ils sont Français et qu'ils ont grandi dans cette culture d'anti-entrepreneuriat, d'anti-succès, parce que c'est ça aussi en France. Dès l'instant où tu fais un peu d'argent, c'est mal vu, il faut pas en faire trop, il faut pas. Je les accueille à bras ouverts, quoi. Et je suis tellement content de voir des, et c'est toujours, c'est triste de voir tous ces mecs-là qui sont en train de bouillonner, là, en France. Ils sont prêts à monter des sociétés, ils sont prêts à créer, à vraiment apporter une plus-value, à nous faire une place sur cette scène, parce que, faut savoir que t'as plus de fumeurs, de consommateurs de cannabis qui l'admettent en France dans un pays où c'est prohibé, que de consommateurs en Californie où c'est légal qui l'admettent. Le marché, il est dingue. Parce qu'il y a une vraie culture du cannabis. Tu peux remonter à nos grands auteurs, à nos grands artistes. Il y a une culture du cannabis. On aime ça en France. On aime ça. Et on aime le bon cannabis. Et en plus, on a un palais. On aime aller en profondeur. Et c'était pour ça aussi, tu vois, que je suis un peu poil à gratter, tu vois, quand tu vas me parler social equity, je vais te dire, ouais, mais tu vois, ça c'est comme ça, le taux de THC. Parce qu'on aime aller en profondeur. Il n'y a pas que moi, c'est pas intrinsèque à moi. Hein. C'est en France, on aime vraiment aller au cœur des choses.
On le voit bien sur le oui, mais. C'est pas qu'on n'est pas d'accord, c'est pas qu'on veut forcément montrer qu'on est plus intelligent. C'est juste, il y a peut-être quelque chose, comme tu dis, on va aller en profondeur, on va encore plus discuter, voir s'il n'y a pas autre chose à gratter un peu.
On a un esprit critique qui des fois est très pénible. Parce que, comparé aux États-Unis, où justement ils ont un côté. Moi, je préfère quand même le côté un peu américain, ou dans le sens où si je dis demain j'ouvre une société, on va me dire bravo mec, les mecs savent pas ce que je vais ouvrir, mais ils sont à fond dedans. Tu vois, donc tu dis ouais, mais bon, c'est un peu hypocrite, quoi. Tu sais pas trop vraiment. Mais à chaque fois que j'ai fait ça en France, on m'a dit ouais, mais ça marchera pas. Les seuls qui ont cru en moi, c'était mes parents, mec. Tous mes autres potes, ils m'ont dit, mais t'es sûr, parce que, tu sais, les mecs se projettent leur peur sur toi, tu vois. Et aux États-Unis, ben, moi, je préfère quelqu'un qui est dans cette énergie, qui va me dire, ben, vas-y, fonce, tu vois, fais ton truc, plutôt que des mecs qui te disent, ouais, ça marchera pas. Même s'ils sont sincères, même si, dans tous les cas, il n'y en a pas un des deux qui sait ce qui va se passer. Mais je préfère aller dans le positivisme, tu vois. Ouais.
Incroyable. Eh ben, écoute, je me rends compte que ça fait 1h30 qu'on est en enregistrement. On pourrait faire au moins le double facilement.
Ouais.
Mais à la limite, on pourra peut-être en refaire un parce que là, sinon, j'ai peur que ce soit trop indigeste, ou alors il faudrait le faire en deux épisodes. À voir. On va y réfléchir. C'est cool. Merci beaucoup pour toutes les infos, pour ta vision, ton expérience. Est-ce qu'il y a un truc que tu veux ajouter?
Un truc que je veux ajouter, non.
C'est bon, on a fait le tour.
Ouais, cultivez. Vivez de votre passion et puis faites-vous confiance. Et voilà, c'est un peu des phrases bateau, mais moi, ça m'a aidé. Alors, ouais, faites-vous confiance et puis créez.
Eh bien, écoute, merci beaucoup.
Merci beaucoup d'avoir écouté notre invité jusqu'à la fin. Je suis sûr que tu as appris beaucoup de choses lors de cet échange. La mission de Parlons Cana, c'est de te mettre en relation directe avec des personnes expérimentées et passionnées. Nous, on est là pour toi. Donc si tu as envie qu'on aborde, ou si tu as envie qu'on approfondisse un sujet en particulier, s'il te plaît, contacte Parlons Cana sur les réseaux et partage-nous tes questions. Je me chargerai ensuite de les poser à nos invités. Merci encore pour ta confiance. À la semaine prochaine.
Cet épisode est sponsorisé par CBD Sport, le blog d'information dédié aux sportifs. Vous y trouverez de nombreuses rubriques, dont la musculation, l'endurance et la précision. Vous y serez conseillé sur la manière de prendre du CBD, que vous soyez débutant, professionnel ou expert. Venez feuilleter ce blog dédié uniquement au bien-être des sportifs. Alors rendez-vous sur www.cbd-sport.info.